Cascodeur Podcast. Épisode 299. Katia est dans la place. Enregistré le 8 septembre 2023.
Pour soutenir les Cascodeurs, allez sur patreon.com/lescascodeurs. Bienvenue tout le monde pour cet enregistrement de news des Cascodeurs. Nous sommes le 8 septembre 2023, il fait beaucoup
35 degrés,
nous sommes le 8 septembre, et nous avons pour cette nouvelle saison une nouvelle membre que nous avons invitée, que nous sommes très contents de recevoir, Katia Aresti, bienvenue dans les Cascodeurs.
Merci beaucoup déjà à vous de m'avoir proposé et de m'avoir accueilli si bien dans l'équipe, et pour démarrer cette nouvelle aventure, au moins cette saison. On va voir si vous ne me virez pas avant après.
C'est par saison, hein. Tu fais la saison 1 et après la saison 2, on ne sait pas si tu seras là, il y a toujours un suspense. Après il y a la saison 3.
Ah oui, on sait jamais. Parfois, dans le film et tout, on a un personnage et après on le tue et il disparaît plus, il apparaît plus, donc on ne sait pas. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité à rejoindre. Je suis très contente d'être là.
C'est l'épisode 299, hein. 299, bientôt le 300. Ouais, hein, tu vois, donc 300. Là, t'es prête pour 300 épisodes à venir. Hein.
Incroyable. Ouais.
Bon, mais Katia, pour celles et ceux qui te connaissent pas, ta vie, ton œuvre, hein, t'es dev, t'es plutôt front, t'es plutôt back, tu fais quoi?
Je m'appelle Katia Aresti et je suis ingénieure en informatique. J'ai fait mon parcours plutôt classique des études d'ingénieur en informatique en Espagne à l'époque, et aujourd'hui, donc après une courte carrière à Sopra Madrid et ensuite une longue carrière à Paris, plutôt en Sopra, Zevia, freelancing, etc. Je suis chez Red Hat depuis bientôt 7 ans.
Oh!
Oui, ça passe, ça passe.
7 ans déjà.
Oui, 7 ans déjà, en mars, ça sera 7 ans. Et voilà, en fait, je suis principale software engineer chez Red Hat dans l'équipe Infinispan. DataGrid, qui est donc un produit qui fait du cache distribué voilà, assez puissant, et puis qui s'intègre avec pas mal de frameworks, donc Keycloak, Wildfly, Hibernate, Quarkus, blablabla. Et donc Spring aussi, blablabla. Et donc je suis dans cette équipe et je m'occupe de la partie de développement de backend Java. Donc j'ai fait principalement du Java dans ma carrière, mais aussi j'ai fait du front, et notamment j'ai créé la console web du serveur. Donc voilà, avec TypeScript et du React et tout ça. Mais en fait, disons que moi je suis une dev backend qui s'est croit du front parfois, mais pas par choix, mais par nécessité.
Bon bah Katia, sache que tu es devenue notre experte front-end des Cascodeurs.
Voilà. Mince. On l'a trouvé.
J'aurais pas dû le dire, mais attends, tout de suite en fait, dès qu'on est une femme, on est la front-end ou quoi? C'est quoi ça?
Ça y est, ça commence.
Non, mais pour le coup, je peux pas trop dire, parce qu'en fait, ce que je fais en tant que front, c'est utiliser un framework de Red Hat qui s'appelle Patternfly, des composants, qui est vraiment très très bien, et qui ça te permet vraiment de construire très vite des interfaces, mais à part ça, tout ce qui est vraiment du front pur, alors là, je suis pas trop la vague, hein, mais après je peux toujours demander à des gens, hein, des conseils, des gens beaucoup plus capés que moi, parce que moi je suis très junior en vrai par rapport à tout ça.
En tout cas, sois la bienvenue.
Merci.
Merci de nous rejoindre.
Et du coup, je fais aussi partie de l'équipe d'Evox. Voilà.
Très bon point.
Je suis aussi dans le CFP de Devox et puis j'anime les keynotes.
Avec
un gars qui est très très bien et très gentil.
Voilà. Qui t'essaye chaque année d'éviter, mais qui se retrouve à chaque fois sur les planches.
Voilà.
Ok. Bon bah bienvenue.
Bref, vous l'aurez compris, Katia, on la connaît depuis très longtemps.
Oui, et j'ai fait aussi beaucoup longtemps partie du bureau de Duchesse France. Aujourd'hui, je suis une simple membre de Duchesse France. et donc je participe à la vie communautaire de l'asso, mais je ne suis plus dans le bureau. J'y étais pendant des années, mais depuis début de l'année, je ne suis plus. Il y a une nouvelle, de nouveaux sons. C'est bien aussi de renouveler les gens.
Il faut. Super. Bon, allez. On va y aller. On a beaucoup de contenu. C'est la rentrée. Donc, on a essayé d'accumuler tout ce qu'il y avait à accumuler pendant les vacances. On s'est pas vu depuis 2 mois, depuis juillet. Donc, allons-y. On va commencer comme traditionnellement par les langages. Et un anniversaire. Alors, il est pas là. C'est dommage. On aurait voulu apporter le gâteau et tout ça, les bougies. Mais ce sont les 20 ans de Groovy.
Incroyable.
Donc, Guillaume, ah oui.
Bravo, 20 ans pour Groovy, langage qui avait été lancé au tout début par James Strachan, qu'il a vite, comme souvent, passé autre chose et qu'il a laissé dans les mains d'autres, dont Guillaume, qui l'a maintenu très très longtemps. Désormais projet de la fondation Apache depuis 2015. Donc bravo, joyeux anniversaire à Groovy. C'est voilà, une belle réussite dans l'écosystème Java. C'est un langage multi-tout qui touche à tout. Et franchement, enfin, je pense que ça a apporté beaucoup de choses.
Une longue vie quand même, Groovy, beaucoup de rachats, beaucoup de...
Ouais.
Le langage est passé d'une main à l'autre. Je pense que ce qui a fait aussi beaucoup le succès de Groovy à une époque, c'était Grails, donc le pendant de Rails version Groovy qui a vraiment mis le langage en avant. Et pareil, Grails s'est retrouvé à droite, à gauche... repris par VMware après Spring et puis après G2One, etc. Mais donc Grails, moi j'en entends plus trop parler, je le vois plus trop. Par contre, le langage, oui, lui, il est toujours là. Donc bravo pour cette 20e bougie.
Ok, et cette fois c'est pas un anniversaire, mais même si on pourrait dire que c'est la maturité Java 21 qui approche à grands pas, donc je l'ai cité, on va pas entrer en détail aujourd'hui, parce qu'on a déjà parlé sur plusieurs épisodes, et on vous prépare un épisode spécial d'interview pour sa sortie, donc le 19 septembre. On aura une interview de Jean-Michel Doudou, et donc merci beaucoup à Charles de l'avoir organisé. Donc, c'est la nouvelle LTS qui va sortir en septembre. Donc, j'imagine que InfiniSpan, c'est bon, c'est tout prêt. C'est prêt.
Bien sûr que c'est prêt. Hein, ça fait longtemps. Ouf. Ça, c'est old maintenant. si, justement, tout ce qui est compatibilité avec les nouvelles versions Java, on essaye d'être toujours à jour en général dans tous les frameworks. Et garder la compatibilité. Après, j'avoue qu'au niveau nouveauté et tout, ça va trop vite pour moi. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'avant, ça allait très lentement et t'avais vraiment du temps pour... Là, à un moment donné, c'est genre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment à une vitesse. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai l'impression que j'avais donné un talk de Java 11. Et genre les nouveautés de Java 11 et tout, et là c'est Java 21, c'est dingue en fait, les release cadence dans laquelle on est.
C'est ça. Et sachant que effectivement les gens eux switchent de LTS en LTS, donc ça va moyennement vite, mais que entre deux LTS il y a tellement d'ajouts au fur et à mesure de ce qui a été rajouté, puisque là finalement une partie des utilisateurs sont en 17. Et encore, quand ils sont en 17, passer en 21, ça veut dire récupérer toutes les contributions qu'il y a eu depuis la 17, et il y en a un bon paquet. Donc en tout cas, on vous prépare un épisode là-dessus, que vous aurez une interview dans quelques semaines, là, dans 2 semaines, sur ce sujet. Donc voilà, restez connectés, et bientôt pour plus de détails sur Java 21, si vous en voulez. On passe aux librairies. Alors, les librairies, une première... alors, j'ai mis ça dans les librairies, effectivement. Sémantique kernel pour Java. C'était toi, Antonio, qui avait partagé ce lien. Qu'est-ce que c'est que sémantique kernel?
Et on en avait déjà parlé, mais je pense qu'il faudra peut-être un jour faire une catégorie spéciale IA chez les casse-codeurs, parce que là, on en a, ne serait-ce que dans cet épisode, on a 5 ou 6 news sur l'IA. Et... à des niveaux différents chez les casse-codeurs, on en fait un petit peu, pas du tout ou beaucoup, mais moi, comme je bosse chez Microsoft, je vous avouerai que j'en fais énormément. Je m'attendais pas à ça il y a à peine 6 mois. Donc effectivement, il y a moi, lorsque je suis rentré chez Microsoft, il y a 2 ans, on parlait très peu d'IA dans ma division à moi. Hein. Moi, je fais Java Cloud. Vous imaginez bien que Java et l'IA, c'était un peu les frères ennemis. Donc il y avait du Python partout. Dès que je regardais des trucs sur l'IA, c'était Python, 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 Python. Et depuis presque un an, Microsoft a développé un framework qui s'appelle, enfin une librairie qui s'appelle Sémantique Kernel, mais venant de Microsoft, c'était Python et .NET. donc moi, ça m'avançait pas beaucoup. Et en fait, depuis quelques mois, on est en train d'implémenter la version Java. Et TypeScript aussi, et dans le pipe. Donc c'est assez compliqué. Imaginez sémantique kernel. Donc je vais vous définir un peu ce que c'est et maintenir le même niveau de fonctionnalité dans 4 langages. Autant vous dire que c'est pas facile avec des API qui se ressemblent un peu, etc. Donc c'est pas facile. Et Java est arrivé en troisième. Donc Java, l'implémentation Java de sémantique kernel est pas encore au niveau de Python et .NET. Donc sémantique kernel, c'est comme son nom l'indique, c'est un kernel, donc c'est censé être petit. Ça fait pas grand chose, mais par contre, ça va orchestrer des tas de choses. C'est-à-dire que sémantique kernel, on va pouvoir en Java, hein, avec une API fluente qui est en mouvement encore, hein, mais qui est assez simple. Donc en quelques lignes de code Java, vous connectez à un provider, donc OpenIA, Azure OpenIA, Hugging Face, et il y en aura d'autres. Vous utilisez un modèle. Et là, vous utilisez GPT-3, 4, 5, ou sur Hugging Face, vous avez des milliards de modèles. Vous pouvez choisir ou créer un langage de templating pour faire vos prompts. On implémente la spécification des plugins de OpenIA. Donc un plugin, c'est comment faire telle fonctionnalité. Alors c'est très très drôle, hein. Moi, je vous dis, je découvre un peu le monde de l'IA, mais lorsqu'on vient de Java, C++, Groovy, on vous dit, tiens, implémente un machin pour faire un bidule. Donc là, vous prenez votre IDE et vous tapez du code dans votre langage à vous et vous implémentez ce machin. En plus, on a des langages qui sont quand même déterministiques. Donc, vous implémentez la fonction F, vous lui passez 5 et vous l'appelez un milliard de fois et la réponse est toujours la même. Bon, là, on est dans un autre monde où, en fait, un plugin, vous allez l'écrire dans votre langue, anglais, français, portugais, espagnol, et vous allez écrire donc ce plugin dans votre langue en passant des paramètres. Ce plugin peut même invoquer des fonctions en Java, en Python. Et vous vous retrouvez avec un plugin, vous lui donnez un nom, je sais pas, calcule-moi pi, et là vous balancez ça à l'IA, et à chaque fois vous avez une réponse différente. Donc voilà, ça c'est un peu le côté non déterministique de l'IA. Et voilà, donc en fait, sémantique kernel pour Java, c'est vraiment dans votre langage Java, dans vos process Java, dans vos workflows Java, comment appeler une IA. Ça peut même être des modèles internes. Et c'est une librairie, donc c'est juste un pauvre jar. Il n'y a pas beaucoup de classes. C'est vraiment fait pour se connecter à une base vectorielle si vous en avez besoin, si vous avez besoin de mémoire. Si vous avez besoin de garder un contexte, vous gardez ce contexte en mémoire. Et c'est souvent des bases de données vectorielles. Donc vous pouvez vous connecter à N bases de données vectorielles. Vous pouvez vous connecter à N providers. Et vous pouvez interroger N modèles. Voilà. Donc comme je disais, c'est pas très très vieux. On en est à la version 0.2.8. Alpha, donc c'est super important de dire que l'API change un petit peu et voilà, et moi je bosse vachement dessus en ce moment et je pense que d'ici quelques mois je ferai peut-être une série de conférences parce que ça me frustrait de voir que l'IA était attachée au langage Python Maintenant, c'est en train petit à petit d'aller vers notre écosystème à nous, Java. Et c'est bien sympa. Voilà pour Sémantique Kernel.
Bonne nouvelle. Donc, bientôt InfiniSpan avec Sémantique Kernel, Katia, non?
Bah, bientôt InfiniSpan avec Sémantique Kernel, je sais pas. Parce que nous, en tout cas, ce qu'on fait, c'est stocker des données. Par contre, Lucene est capable de faire du stockage vectoriel, ou de la recherche vectorielle. Et en fait, nous, on va monter des versions, justement, de Lucene. Et avec Hibernate Search qu'on a, et en InfiniSpan, on a de la recherche full text. Et on pourrait, ça, c'est des choses, on pourrait peut-être implémenter comme Elasticsearch fait dans son modèle, stocker des embeddings. Après, tout ça, c'est pas tout de suite, honnêtement, je suis plus sur d'autres fonctionnalités en ce moment, mais ça va venir probablement.
Mais c'est vrai qu'il y a des tonnes de services qui aujourd'hui, enfin tout le monde cherche à savoir comment est-ce qu'on va utiliser ou pas les IA. Enfin moi, genre voilà, chez Doctolib bien sûr, il y a des questions là-dessus et tout ça. Enfin c'est tout le monde, toute entreprise de ce jour se demande est-ce que ça a un intérêt pour moi. Après, ça n'a pas d'intérêt pour tout le monde, et puis c'est pas toujours simple pour tout le monde. Sécurité, privacy, etc. C'est pas des choses qui sont simples à gérer. Mais clairement, enfin, on le voit. Hein. Et donc pour l'instant, on n'a toujours pas de catégorie pour, mais on en reparlera des IA parce qu'effectivement, on a pas mal de petits articles qui y touchent, pas tout le temps sur de la tech comme ici sur une librairie. Mais en tout cas, bon, c'est cool de voir Java qui se positionne enfin sur ce domaine plus facilement. Allez, on continue. OpenSSL, un article d'OpenSSL. Alors, si vous vous souvenez, il y a longtemps maintenant, Heartbleed, c'était un bug. Il y a combien d'années? Il y a quand même un paquet d'années.
Il y a un paquet d'années, ouais.
Il y a un paquet d'années. Et si vous vous souvenez, à l'époque, ça avait fait un, au-delà du bug OpenSSL.
2014.
Donc ça fait 10 ans. Ce que ça avait quand même mis en avant, comme problème, c'était, la fragilité, de OpenSSL lui-même et des projets open source d'une manière générale, où le fameux dessin de je sais plus qui qu'on voit tout le temps, la tour toute branque-ballante qui tient sur un tout petit cube, c'est le projet open source sur lequel toutes les fondations se basent. Et ce que ça avait mis en avant, c'était justement la faiblesse de certains projets open source qui sont portés des fois par peu de personnes, des fois une personne, des fois très très peu. Et là, donc, OpenSSL, ils ont fait un article au mois de juillet pour essayer de revenir un petit peu, c'est quoi OpenSSL aujourd'hui, donc par rapport à 2014 où c'était quasiment du one man show, hein, c'est pas tout à fait ça. Et donc là, ils ont fait un article sur détailler finalement qui contribue. Et donc ils ont toujours une majorité bien sûr d'OSS, mais cette fois il y a du financement qui est fait derrière, il y a des contributions bien sûr payées ou non pas payées avec des boîtes tierces. Mais en tout cas, on voit que ils ont pris le problème à cœur, qu'ils ont essayé de reprendre le modèle de contribution et d'avancer du projet, parce que c'est quand même une brique critique. Et voilà. Donc un petit article intéressant pour voir un peu comment a évolué un projet open source entre il y a 10 ans où c'était effectivement à grand risque et maintenant où c'est un peu plus sous contrôle, on va dire.
En tout cas, la conclusion va être intéressante parce qu'ils disent 87% des commits non triviaux, hein, donc pas de la Javadoc ou des trucs comme ça. Enfin, 87% des commits non triviaux sur la dernière année ont été faits par 56 personnes qui sont employées, qui sont payées par leur employeur pour comiter sur OpenSSL. Donc effectivement, comme tu dis, on est sur une brique beaucoup plus industrialisée, sécure et qui fait moins peur parce que c'est vrai que l'image effectivement de toute cette architecture qui tient par pas grand-chose, on l'a vu malheureusement parfois, il y a des projets open source vitaux assez fragiles et qui parfois disparaissent même et ça ébranle un peu les projets.
En tout cas, c'est bien, ça a servi d'électrochoc. Bon, ça a coûté cher et c'était un peu compliqué, mais au moins c'est bien de voir que voilà, les choses évoluent, que les gens s'intéressent et qu'aujourd'hui donc il y a beaucoup plus de contributions via des entreprises, mais que les gens s'intéressent à vraiment améliorer les briques open source et contribuer. Parce que ça reste le challenge numéro un de tout projet open source, c'est d'avoir une communauté de contributeurs et non pas une communauté uniquement d'utilisateurs. Ça, je pense qu'on a tous connu ça, mais c'est vrai que de trouver l'équilibre et surtout après trouver un modèle communautaire versus propriétaire, on en reparlera un peu plus tard avec des news chez Hachicorp, mais trouver toujours cet équilibre entre réussir à avoir des gens qui maintiennent, qui font vivre un projet et des gens qui contribuent et des gens qui utilisent, c'est pas simple du tout. Allez, on avance. On passe sur des releases. Donc, on peut peut-être commencer par Micronaut et ensuite enchaîner par Quarkus. Donc, Micronaut 4.1.0 qui est sorti. Qui veut en parler ?
Moi, j'ai pas trop suivi les dernières versions de Micronaut, je vous avouerai. Mais il y a dans cette version-là. Alors, déjà, donc là, on parle de la 4.1, mais. Déjà, il y avait la version 4 qui est sortie il y a peu de temps, qui elle a ramené énormément de nouveautés. Bah justement, on parlait de Groovy, passage à Groovy 4 et à Java 17. Donc ça, c'était la grosse nouveauté de Micronaut 4 et le support de GraalVM. La dernière version de GraalVM, j'ai oublié la version. Et bien sûr aussi. Et on n'en a pas beaucoup parlé avec Java 21, mais le support de Loom, des threads virtuels. Donc ça, c'était pour les nouveautés de la 4.0. La 4.1, il y a des bitmappers. Alors, vous savez, c'est toujours le même problème qu'on a depuis 20 ans, c'est comment je mappe un bin A vers un bin A'. Typiquement les entities et les DTO. Donc voilà, ils ont des bitmappers qui mappent comme ça les attributs dans les deux sens. Ils ont des introspections builder, puisque vous savez, les frameworks à la Micronaut ou à la Quarkus, ils font énormément de choses au build time pour justement donc arrêter toutes les introspections, les proxys, les trucs à la volée. Donc ils ont une annotation introspective qui améliore tout ça. Et puis une ribambelle de mise à jour sur, vous savez, ils ont Micronaut Data, Micronaut Kafka, Micronaut Sécurité. Donc c'est un peu comme Quarkus et les extensions où ils vont mettre une fine surcouche à Kafka, à Logging aussi, puisqu'ils ont leur Micronaut Logging derrière, c'est Logback. Voilà, donc pas mal de petites nouveautés dans Micronaut 4.1.
Ok, et donc si je traverse la rue, je vais chez Quarkus, on est en version 3.3.
Point 2.
Ah bah ça vient de sortir. Ah bah oui, bah elle était pas sortie quand j'ai revu mes notes il y a quelques.
Voilà, c'est déjà sorti. Ça va très vite. D'accord. Aussi. Ça va très D'accord. vite. On voit une vitesse là. Et oui, donc cette montée de version est importante puisqu'il y a eu une régression qui a été introduite niveau performance et que du coup c'est fixé dans cette version. Et puis beaucoup de fixes. Super. Donc voilà. Comme alors, toujours,
il faut mettre à jour les show notes pour mentionner la 3.3.2 et que le bug de performance est enfin fixé puisque moi je m'étais arrêté à la 3.3.1. Super.
Oui. Et puis après, il y a Hibernate aussi, donc ORM qui est sorti, la 6.3.0 et la 6.2.8, la partie ORM, et puis Hibernate Reactive 2.0.5. Et puis, donc, on parle de, qu'il y a la spécification de Jakarta Persistence 3.2 qui est là, et puis une nouvelle guide aussi, donc la doc, ça c'est important de le dire. Des nouvelles docs qui va nous aider pour les query language et plein d'autres choses, des nouvelles annotations utilitaires pour faire des recherches etc. Donc ça, je vous laisserai regarder. Et puis la partie de réactif qui est compatible avec Hibernate ORM 6.2.8. Et puis il y a des changements d'API pareil, faut voir les détails.
OK.
Jakarta Persistence 3.2, c'est la version à venir là. Je suis un peu oui, parce qu'on a la 3.1, c'est ça, et la oui, ah oui, voilà. Jakarta Persistence 3.2, c'est pour Jakarta 11. Donc c'est effectivement la prochaine version.
C'est ça, on est un support initial de les spécifications. Comme D'accord. on dit, on essaye tout à l'heure qu'on se posait des questions, Java 21, machin, bah, il faut vraiment aller très très vite hein, parce que sinon...
Leading edge.
C'est oui, ça. on peut pas s'arrêter. On doit vraiment regarder et mettre à jour toutes les dépendances en continu et tout le temps avec les dernières, même des builds, etc. Parce que sinon, ouais. Ça va très vite et c'est pour ça qu'il faut releaser très souvent ce qui fait Quarkus et d'autres frameworks aujourd'hui. On n'a pas le choix.
C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. On améliore l'écosystème. C'est voilà. Là où c'était resté, tout le monde se plaignait que c'était moribond, Java, ça n'avançait plus. C'était, on est resté des années sur la 8, etc. Ça y est, on a repris de la vitesse et tout.
Non, maintenant on se plaint parce que ça va vite.
Ça trop vite. Ils sont jamais contents ces développeurs. C'est pas possible.
On n'est jamais contents.
Évolution. Ok, super. Bon, passons à l'infrastructure. Donc l'infrastructure, je vous ai mis une. Alors deux articles, c'est les deux premiers, a priori il y en aura d'autres. Deux articles d'un blog post de Mathieu Corbin, qui reprend des bases, je les trouve intéressants. Après.
Oui.
Si vous découvrez un peu les problématiques d'observabilité, il fait une petite reprise des bases. Le premier article, c'est sur toutes les notions de métriques. C'est quoi une métrique? Quelles sont les problématiques de tagging, enfin de label, de cardinalité des métriques? Parce que ça, c'est souvent des trucs dans lesquels on a des petites surprises. On met en place une jolie observabilité, puis tout d'un coup, mais ça coûte super cher. T'as pas fait attention à ta cardinalité de ton tag et tu payes. Ah, c'est compliqué. Voilà. Donc beaucoup de choses sur les bases. Donc sur le premier article, c'est là-dessus. Donc après, sur les différents types de métriques, les compteurs, les jauges, etc., etc., les quantiles et tout ça.
C'est vrai que c'est pas mal, hein. Il explique. Alors c'est en français. Il explique bien les jauges, les quantiles, les histogrammes. Enfin, franchement, moi, j'ai trouvé la série d'articles très très bien. Je ne connais pas ce monsieur. Je ne connais pas Mathieu Corbin. En tout cas, si tu nous écoutes, Mathieu, super boulot. Et je vous conseille la lecture de ces deux articles. Et comme tu disais, Arnaud, il y en aura peut-être plus.
Oui, a priori, il y en aura plus. Le deuxième article, c'est sur OpenTelemetry, c'est sur Hotel, etc. Donc voilà, il remonte un peu les niveaux. Donc a priori, il prévoit d'en faire d'autres. Voilà, donc bravo Mathieu. Voilà, donc si vous voulez plus couvrir ces connaissances-là, c'est en français, c'est super agréable à lire, c'est très bien fait. Voilà. Passons au web avec Node.js, la version 20.6.0 qui est disponible.
Ça, c'est pour Katia. Web, on ça, avait c'est... dit que c'était pour Katia. Alors,
là, ça, web, c'est Katia.
Mais Node, c'est vraiment pour la partie back-end, non?
Ouais, pour le coup.
Ah, je suis... Là, non. C'est pas parce que c'est du Node.js. Moi, je peux pas de Node.js.
Tu l'as pas eu.
Pour les coups, ce que j'ai fait, je suis presque morte en le faisant, c'est une librairie Banibo, pour se connecter à InfiniSpan avec Node, justement, pour l'inclure dans, et c'était du bas niveau, c'était du JavaScript bas niveau. Et je suis presque morte en faisant ça, en fait. Et je veux pas, en fait. Donc, non, je connais pas du tout. Après, je sais que React, pour le coup, ce qu'il y a eu, je sais pas si vous avez parlé avant, qu'il y a une nouvelle version de React qui est sortie, la version 18. Voilà.
Non, bah, ça, j'ai pas
compris. Je pense pas que les cascodeurs. Voilà. Je pense pas que les cascodeurs. Et beaucoup parlent de React 18.
Pas de bêtises, c'est la 18. Si c'est, en fait, la dernière version, soit c'est la 17, soit c'est la 18. Là, j'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, il y a une nouvelle qui est sortie il y a pas si longtemps que ça. Et pour le coup, ça, il y a beaucoup de nouveautés. Et ce qui démontre bien aussi que le React, bah, comme tout, ça avance aussi, et ça continue. Après, d'autres frameworks front, franchement, je suis pas leur vie, faut arrêter de croire que je suis front, hein.
Oh, flûte!
Mince, on a encore. Bon, faut vraiment qu'on trouve. Qu'on
mauvais casting!
Ah, là. Voilà, mauvais casting.
Bon, désolé,
regarder mon CV, quoi.
Okay. Donc plus sérieusement sur Node.js 20.6, donc il vient de sortir, la grosse nouveauté, c'est le support des fichiers .env, ces fichiers qui sont utilisés dans pas mal de runtime de nos jours. Vous mettez dedans vos variables d'environnement, foo égale toto, etc., etc., et vous démarrez votre environnement Node avec l'env file, et ça charge automatiquement les variables d'environnement. Notamment, vous pouvez y préconfigurer le Node option pour optimiser le comportement en mémoire, etc. Voilà, donc ça c'est la grosse nouveauté de Node 20, sachant que il va bientôt passer, la version 20 va passer, je crois, en octobre en version LTS de mémoire, parce que pour l'instant c'est toujours la 18, la 19 n'aura jamais de LTS, et c'est la 20 qui va passer en LTS, et ça sera au mois d'octobre ou novembre, j'ai un doute. Voilà. Donc c'était la minute web des cascodeurs, mais effectivement, il faut vraiment quoi. qu'on trouve. N'hésitez pas, les crowdcasts, si vous avez des news à partager, n'hésitez pas à combler nos manques de compétences sur ces domaines, ça sera toujours apprécié. Allez, on passe à la data.
Oui.
La data avec Redis.
Oui, la version Redis 7.2 qui est sortie. Et voilà, et là, je commence à être experte dans les protocoles RESP 3. Pourquoi? Parce que justement, ce que j'ai fait pendant 4 mois, c'est implémenter les commandes de Redis dans les backends d'InfiniSpan. Ouais! Donc, c'est pour ça que je suis bien à ce qui se passe avec Redis. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on puisse utiliser des clients de Redis et justement avoir un backend qui puisse être remplacé par InfiniSpan. Donc, c'est implémenter le protocole RESP 3. Et oui, en effet, il y a beaucoup de nouveautés dans cette version. Et il y a de nouveaux commandes. Et là, il y en a deux qui sont listées dans les notes, mais il y en a d'autres aussi qui sont là. Et puis, bah voilà, allez voir ce qui c'est vraiment. C'est une question. Moi, je ne connaissais pas très très bien Redis avant, et la quantité des commandes qui existent, c'est un truc de fou, hein.
Alors, RESP, ça veut dire Redis Serialisation Protocol.
Donc, c'est un protocole. C'est comme, par exemple, Amazon, quand tu as ElasticCache, il te dit tu peux utiliser ElasticCache avec Memcache ou avec RESP. Mais après, derrière, ça ne veut pas dire que c'est un Redis qui tourne. En fait, moi, je ne sais pas ce que... Il faudrait que quelqu'un me dise exactement ce qu'il y a derrière. Parce que ce qu'il dit, c'est qu'on est compatible Memcache et Redis, RESP. Et en fait, c'est ça. Toi, tu utilises tes clients et avec les langages que tu veux. Et derrière, soit tu as Redis, soit tu as d'autres produits qui ont émergé. D'ailleurs, il y en a d'autres. Là, j'ai pas le nom exact, mais il y a d'autres produits qui, justement, ils implémentent les protocoles, comme on fait avec Memcache. On implémente le protocole de Redis, le RESP 3. Et du coup, derrière, tu n'as pas forcément le Redis, mais tu as d'autres produits. Mais tu peux garder ton code et tu peux garder tes capacités d'utiliser des commandes, d'avoir des sorties de sets, des listes, toutes les structures, et puis de pas bouger tes applications forcément. Et de dire, je change d'infrastructure.
C'est déstabilisant d'appeler ça spécification, protocole spec. Et ce que tu dis, Katia, c'est que tu peux changer les clients et les implémentations. Mais l'aspect qui commence par le mot Redis, donc c'est vrai que c'est, oui, un peu perturbant. Tu te dis, tiens, oui,
c'est comme ça.
D'accord.
Mais il y en a. Là, j'ai plus. Je suis désolée, j'ai vraiment pas le nom. Je le mettrai dans les notes de vraiment un produit qui dit, on fait un Redis, mais c'est comme on est comme Redis, mais plus rapide ou plus performant, ou je sais pas lesquels c'est. Et puis il se positionne là-dessus comme un remplaçant de Redis par rapport à certaines configurations dans le déploiement de haute disponibilité et de performance et de scale. Parce qu'en effet, on a Redis open source et après il a Redis Enterprise. Ce n'est pas le même coût. Et ce n'est pas les mêmes fonctionnalités non plus qui offrent l'un et l'autre. Et du coup, à un certain moment, on peut se poser des questions. Est-ce que parfois avec le Redis open source, on n'a pas assez et on a besoin d'autres choses. Et l'Enterprise, peut-être, c'est pas adapté pour nous non plus, pour différentes raisons. technique comme politique.
Oui. Ok. Bon, bah.
Je fais un disclaimer. J'espère que je ne suis pas en train de dire une connerie, en fait, ici. Hein, mais...
Alors, sur les 299 épisodes des Cascodeurs, des conneries, on n'en a pas dit beaucoup.
Ouais. Non. Et au pire, il y a un Google Group sur lequel vous pouvez venir nous dire qu'on a dit des conneries.
Oui. Enfin, voilà. Et vous le faites souvent. Et merci.
N'hésitez pas. Et merci voilà. Ok. Allez, on passe au, à l'architecture. Oh, surprise. Qu'est-ce qu'il y a dans le sujet architecture? Eh ben, de l'IA.
L'IA. Et oui. De l'IA.
De l'IA partout. Donc, trois articles. Le premier, on commence par Google Gemini et sa capacité à battre ChatGPT.
Super article. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé cet article-là. Alors, enfin, de toute façon, aujourd'hui, l'IA, vous avez bien vu, hein, soit vous êtes dans le monde Python et vous voyez des librairies et du code, soit vous êtes dans le monde Java et vous voyez pas grand-chose techniquement et vous lisez énormément, enfin, si ça vous passionne, mais énormément d'articles sur l'IA, les batailles entre les grands, les batailles entre les petits, la responsabilité, l'écologie aussi, il y a eu énormément là-dessus. Hein. On a même une autre news là-dessus. Et cet article est super intéressant parce que il parle d'une implémentation, enfin de Google Gemini. Donc ils vous disent ce que c'est. Il vous dit qu'effectivement c'est 5 fois plus gros que GPT-4, etc., etc. Donc on voit bien cette guerre là entre GPT-2 et GPT-3, c'est plus gros, et 4 c'est plus gros, et Gemini c'est plus gros. Enfin, vous voyez, il y a un peu cette guerre là des modèles. Mais surtout l'article, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que il dit bon ben voilà, hein, c'est un peu toujours la course à plus de données des modèles toujours plus du gros, mais bon, ben, il faut un certain nombre de GPU pour entraîner ces modèles-là. Et même moi qui bosse chez Microsoft, si j'avais l'information, je pourrais pas vous la donner. Ça serait certainement une information interne, mais je ne l'ai même pas, cette information. Je ne sais même pas le nombre de GPU utilisés pour GPT-4. Et je sais même pas si beaucoup de gens en interne le savent. Donc je peux même pas vous dire si c'est 1000, 10 000 ou 1 milliard. En tout cas, c'est beaucoup. Et l'article parle un petit peu de ça et il parle vraiment, alors en plus, voilà, il parle des GPU rich. Donc ceux qui sont riches en GPU. Bon, bah, la Chine et les États-Unis. Et puis les grosses boîtes Meta, OpenAI, Google, Anthropic maintenant, Microsoft, donc voilà, donc ça c'est les GPU rich. En Chine, il se passe des tas de trucs, c'est moins ouvert, on sait moins ce qui se passe, mais enfin voilà, ils sont aussi à fond là-dedans. Et les GPU pour bon ben il y a l'Europe, hein. Ça je pense que Il y a l'Europe, et puis surtout, ce qui est super triste, c'est les startups, c'est les boîtes qui veulent démarrer. C'est que maintenant, entre Nvidia qui fait des nouvelles GPU hyper optimisées pour l'IA, rachetées par toutes les grosses boîtes, enfin vraiment, on a vraiment l'impression en lisant l'article qui donne des chiffres, hein, et pas uniquement une impression ou une sensation, que l'Europe est tellement à la traîne qu'on ne pourra plus se refaire. Voilà, ça c'est le côté un peu de dystopique de l'article. Mais voilà, enfin, il met aussi l'accent sur cette nouvelle ressource. Voilà, on parle beaucoup de pétrole dernièrement, on parle beaucoup d'électricité, de charbon. Et ben la GPU, les CPU, surtout les GPU, et maintenant tout ce nouveau pan de recherche par les boîtes elles-mêmes qui font des GPU hyper optimisés pour entraîner les modèles. Voilà, donc très très bel article, un peu long en anglais, mais superbe. Donc à lire.
Cool. Et on continue donc sur l'IA, cette fois avec MetaGPT.
Alors bon, Meta, si vous avez suivi Meta, donc Facebook Meta, c'est les papas de Llama. On en parlera après, mais c'est aujourd'hui un des plus gros modèles open source. Enfin, open source, on en parlera après. Et Donc l'article là, il parle de cet entraînement, En fait, aujourd'hui, les grosses boîtes, elles ont un petit souci. C'est souvenez-vous, Microsoft et Léa, c'est ça, il y a 4-5 ans, Microsoft avait créé une IA qui s'appelait Léa, je crois, et qui rapidement était devenue antisémite,
ouais, c'est
anti
ça,
machin.
Un gros souci, ouais.
Donc ils ont débranché tout de suite, et depuis tout le monde faisait un peu le mort, et donc aujourd'hui les boîtes font extrêmement gaffe à ça. Donc tous les modèles, la moindre question que vous leur posez, ils disent non, désolé, je sais pas répondre, ou je peux pas te donner une opinion, etc., etc. Et donc ça, aujourd'hui, c'est beaucoup entraîné par des êtres humains aussi. Enfin, il y a énormément d'êtres humains avec plein d'excès. Il y a des batteries d'êtres humains en Inde, en Afrique, etc., qui sont payés pour répondre à des questions, pour entraîner les modèles. Donc il y a énormément d'êtres humains qui sont utilisés pour entraîner les modèles et leur dire ce qui est autorisé, pas autorisé, rester le plus policé possible.
Ok, donc on enchaîne, Katia, avec un article à propos d'une conférence de Leslie Maillet, toujours au niveau de l'IA, mais cette fois c'est à propos des biais et de tout ce qui est consommation d'énergie.
J'avais mis un article d'une conférence qui a été donnée à propos de tout ça, à propos des biais, l'énergie et l'IA par Leslie Maillet, qui a été le tech advisor de Microsoft. On se pose beaucoup de questions sur ça, en fait, on commence à se dire que, en fait, lui, ce qu'il dit, et il faut voir l'article, la présentation, il a la transcription et tout. C'est très, très intéressant. Et justement, il dit que là, ce qu'on a entre les mains, ça lui fait à lui le même effet que, dans les années 90, quand il a vu le premier web. Il se dit, il y a un truc nouveau là, il y a vraiment, c'est un vrai changement qu'on est en train de vivre et que c'est maintenant qui va arriver, et que du coup on a aussi beaucoup de choix et beaucoup de décisions à prendre en compte aujourd'hui, notamment sur l'effet qu'il y a toutes les biais qui peuvent avoir le IA et l'impact que cela peut avoir et les dégâts potentiel qui peut avoir, et puis aussi la partie énergétique de se dire, en fait, les nouvelles data centers et tout qu'on est en train de construire, ça va avoir un impact sur les communautés. Ça fait beaucoup de bruit quand même. Il fait une analogie aussi à l'époque quand ils ont fait des routes aux États-Unis, les routes, des infrastructures, pour dire ah oui, ça a quand même eu des effets sur les communautés, pas très positifs, et aussi par rapport, ils ont été construites avec des billets en tête aussi, et que du coup, bref, il faut vraiment aller lire exactement ce qu'il dit, parce que moi je l'explique très très mal, mais en gros il parle de l'infrastructure, parce qu'aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est des infrastructures pour les IA. Et il y a des nouvelles data centers, etc. Et la consommation énergétique et d'eau est hyper coûteuse, en fait. Et du coup, on est dans ces moments de dire, ah non, mais il faut être green et voir toute la partie écologique qui est sur la table, qu'est-ce qu'on fait avec la planète. Mais en même temps, on a l'IA et en même temps aussi, Et en même temps, il faut construire tout ça et comment on fait tout ça ensemble, en fait. Et donc, là, ça a l'air très négatif, comme un espèce de truc catastrophique comme je le dis, mais en fait lui il s'arrête pas là, il parle aussi de quelles sont les stratégies mettre en place et l'impact négatif qu'il peut avoir, et puis aussi qu'on prenne conscience en fait tous de que qu'il y a tout ça derrière, en fait, que les enjeux sont hyper importants et que c'est maintenant en fait que ça arrive, en fait, les enjeux, ça c'est pas un truc qu'on va régler plus tard, c'est dès maintenant. Et du coup, oui, j'ai trouvé que c'était un très très bon article, très bonne présentation.
Oui, c'est une présentation de Leslie Millet fait à la QCon cette année. Enfin, c'est assez récent et très très bien. Il parle très très bien. C'est un personnage qui allait de boîte en boîte. Là, il est tech advisor du CTO de Microsoft, mais il était chez Google avant, etc. Donc il a et puis effectivement, comme tu dis, Katia, c'est toujours l'histoire est pleine d'innovation et puis comme c'est les débuts, on balbutine et on se dit on va régler le problème demain. Parfois on y arrive, parfois c'est trop tard, souvent c'est trop tard. Et ce qu'il nous dit là, c'est qu'on est vraiment au début de quelque chose et qu'il faut le prendre à bras le corps maintenant. Il faut pas le rejeter, il faut pas dire l'IA ne passera pas par moi comme a fait l'Italie il y a Exactement. Quelques mois. C'était très très drôle. Mais il faut surtout dire l'IA est là et sera là, mais qu'est-ce qu'on fait? Et comme tu dis, c'est un peu négatif, son talk est un peu négatif, mais il laisse des portes ouvertes. Il laisse des portes ouvertes à la fin.
Ok. Bon, et donc pour terminer, Kubeflow, juste pour dire que ça a été accepté à la CNCF, voilà. Donc le toolkit pour déployer du machine learning a été accepté. Donc voilà, rejoint la CNCF d'ici peu, enfin c'est en cours. Les méthodos, on va passer aux méthodos, on change un petit peu, on va s'écarter un petit peu de l'IA, je crois, il n'y a pas trop d'IA. Pendant 5 minutes. Allez, on va parler de... Alors, il y a eu deux articles, oui, d'ailleurs, ça vient de moi, celui-là. Le premier, c'est surtout ce qui est mesurer la productivité des développeurs. Bon, moi, effectivement, c'est un peu mon dada chez Doctolib de travailler sur tout ce qui va être le développement en interne, la productivité des développements, tout ce qui est, voilà, les bonnes pratiques, comment essayer de faire tout ça. Et donc, il y a eu un article qui a été sorti, par McKinsey, le fameux bureau de conseil que tout le monde adore, et qui a sorti un superbe article pour dire ça y est, ils ont trouvé la formule pour calculer, pour mesurer la productivité des développeurs. Voilà. Donc là, ça y est, tout le monde était là. Ah, c'est super. Bon. En creusant, bien sûr, on se rend bien compte que, comme d'habitude, c'est du vent. Et donc, deux articles qui étaient assez intéressants. Le premier, alors, je ne sais pas s'ils ont publié la suite, mais Kent Beck, alors Jaggerly Rose, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est celui qui fait la newsletter Pragmatic Engineer. C'est une newsletter, il y a une version payante, une version gratuite, où effectivement, voilà, il partage pas mal de stories sur être un bon ingénieur, rester pragmatique, etc. Et donc ils ont publié un article en commun pour démonter en gros tout ce que raconte McKinsey, revenir sur les bases en expliquant c'est quoi le modèle mental, pourquoi la productivité, à quoi ça sert d'ailleurs de mesurer la productivité, comment est-ce qu'on se compare ça, pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps de productivité et quand on compare ça avec d'autres activités genre les sales, le support et tout, et donc comment est-ce qu'on mesure la productivité par rapport au résultat, parce que finalement la productivité c'est par rapport à ce qu'on produit à la fin. Donc un article que je vous conseille de lire si vous intéressez à ces sujets là et un autre que j'ai retrouvé très récemment, que j'ai remis dans les show notes aussi, de Martin Fowler, le fameux, qui lui parlait de ça il y a 20 ans maintenant, je crois, qui exactement faisait le même bilan, de dire non, la productivité des développeurs c'est pas si simple. On peut pas juste dire on peut pas nous suivre à la ligne de code, à la release, c'est pas comme ça que ça marche,
de temps qu'on a réfléchi au problème aussi.
Voilà, c'est ça. Des fois, on va passer des heures pour pondre une demi-ligne de code, parce que c'est juste qu'il a fallu un cheminement. Enfin voilà. Donc un article, des articles assez intéressants si vous voulez vous rencarder sur ce sujet-là. Et dans la lignée de ces articles de productivité et tout ça, toute une collection d'articles, on va pas entrer dans les détails, on n'a pas le temps, sinon on fera un épisode de 3 heures, et je vous laisse dans ce cas-là regarder, j'ai mis en lien la table ronde à laquelle j'ai participé au mois de juillet, tout un tas d'articles sur tout ce qui est platform engineering, savoir qu'est-ce que c'est que le platform engineering. Vous savez ce que c'est que le platform engineering, Antonio, Katia?
C'est pas le nouveau terme pour Ops, non? J'ai pas trop suivi.
T'es pas trop loin, en gros.
Ça va trop vite, les changements.
Naming things is hard.
Faut, faut bien faire du marketing si tu ne changes pas les noms, etc. Bon, voilà, donc DevOps, c'est mort. Les SRI, bon, il y en a marre. Allez, on parle de platform engineering. Mais effectivement, tout ceci, ça reste surtout du renaming et du rebranding. En gros, ça reste toutes les activités internes aux entreprises qui vont fournir à la fois des services et des bonnes pratiques pour essayer d'être efficace en interne et surtout de fournir des produits de qualité, tout du moins à la hauteur de vos attentes. Chacun voit ce qu'il veut mettre dedans. Et donc, je vous ai mis tout un tas de petits articles qui reprennent les concepts de platform engineering, d'où ça vient, pourquoi les échecs de certaines approches DevOps, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont essayé de se mettre à DevOps, ont dit « Oh, c'est cool ça, c'est bien, on va virer les Ops, et puis on met des DevOps, et puis c'est réglé. » Et puis, on se retrouve avec des équipes qui se retrouvent à faire du Dev et des Ops, mais ils savent ni faire ni l'un ni l'autre bien, qui ont une charge mentale énorme parce qu'ils se retrouvent en astreinte à longueur de temps, ils comprennent plus ce qu'est leur métier. Je fais du Dev, mais la nuit, je fais... Bref. Donc, ça reprend tous ces articles-là, reprennent tous ces concepts de d'où ça vient, de pourquoi c'est dans tous les cas, quel que soit le nom à adopter, important de faire le suivi d'une approche DevOps avec bien sûr fournir des services qui sont adaptés. Si on veut donner plus de capacité aux équipes de faire, faut fournir les services et les manières de faire qui vont bien, qui leur conviennent. Et pas mal de d'autres petits articles sur tout ce qui est la charge cognitive, toutes ces problématiques de c'est pas parce que c'est pas en disant juste tu build it, run it, c'est fait, hop, c'est réglé. Il y a plein de choses à faire. Les notions aussi de team topologies, savoir vous avez des équipes qui vont être plutôt orientées feature, plateforme, qui vont donc travailler en cycle, qui vont être orientées produits, etc., avec des équipes plutôt enabler, donc plutôt des gens qui vont être là sur essayer de faire passer les bonnes, récolter et repartager les bonnes infos, etc., les bonnes pratiques et tout ça. Voilà, donc tout un tas de petits articles là-dessus pour ceux qui s'intéressent à ce domaine. Et qu'est-ce que je voulais finir? Les visions de SOTWorks, par exemple, sur ce genre de domaine. Voilà. Donc si vous vous intéressez là-dessus, quelques liens qui sont pas trop compliqués, non, ils doivent tous être en anglais, mais ils sont pas trop compliqués à lire, voilà. Donc, je vous les partage. Et pour continuer justement sur cette charge mentale,
l'astreinte, oui. Et justement, moi, j'ai trouvé Félix Lopez, qui est le VP Engineering d'une startup dans la data, startup où je pense que ça continue à être une startup, qui s'appelle Tiny Bird. Et Félix, il a travaillé pour Google et il était le VP Engineering à Eventbrite et là il a pris ce rôle. Et en fait, Tiny Bird, c'est une startup qui a un produit SaaS d'analytique des données, des data. Et du coup, en fait, dans leur SLA, donc le temps qu'ils doivent fournir le service, c'est 7 sur 7, 24 sur 24. Donc, en fait, ce qui lui parle, c'est que quand il est arrivé, du coup, l'équipe était plutôt petite et pas beaucoup de gens. Je sais pas combien, mais disons, c'était pas une grosse entreprise, admettons, une vingtaine de personnes. Je dis ça, ces numéros-là, comme ça. Ça peut être un peu plus, hein. Mais en fait, en gros, ce qu'il disait, qu'il y avait pas des process d'astreinte, parce que, il savait pas, il voulait pas mettre un process formel, parce que, il voulait pas mettre une charge aux gens, etc., etc. Mais en fait, dans les faits, ce qui se passait, c'est que finalement, comme personne était responsable de l'astreinte, tout le monde était responsable et que du coup cela crée encore plus de stress parce que si personne est responsable, tout le monde est responsable et du coup ça faisait que tout le monde c'était un peu le chaos à cause de ça. Et du coup lui ils ont décidé de mettre en place un process plus cadré, mais donc ils l'ont fait vraiment donc l'article l'explique très 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 bien. Il explique que du coup ils ont fait d'abord avant de créer le process de regarder ce qui était en place. Pardon, je récapitule ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'avant, ils n'avaient pas de process formel. Du coup, ils ont créé le process formel. Et donc, la première chose, ça a été d'écrire les fondamentaux de l'astreinte. Du coup, c'était d'abord de dire, l'astreinte n'est pas obligatoire. Il faut que le bruit soit minimisé. Il faut qu'on ait vraiment une alerte avec un runbook. Donc, savoir si quoi faire en cas d'alerte. C'est pas seulement pour le SRE, c'est le Software Reliability Engineers. Mm-hmm. Et du coup, appeler quelqu'un, ça doit être la dernière solution, et puis minimiser le temps d'astreinte, etc. Ils ont mis des principes. Ensuite, ils ont passé sur chaque alerte qu'ils avaient, ils ont regardé s'il était compréhensible, exploitable. Et donc, une fois qu'ils ont décidé ça, ils ont mis un board Grafana pour chaque alerte et voir un plan spécifique. Ils ont fait le premier tri. Ils ont tout migré vers un seul channel des com avec une petite manuel d'astreinte et pour chaque alerte, quoi faire, etc. S'ils voyaient qu'il y avait une alerte qui finalement n'était pas exploitable ou quelque chose qui on ne savait pas quoi faire avec, supprimer. Petit à petit, ils ont fait ça. Ils ont du coup changé, donc les gens, ils faisaient une rotation, prendre le rôle d'astreinte. Au début, c'était deux personnes, maintenant c'est trois. Donc ça a fait ça a fait beaucoup de bénéfices à le long terme, qui avait du coup pour les rapports d'incidents futurs, ils ont atténué beaucoup des problèmes, ils ont aussi renforcé beaucoup la propriété parce que justement les gens ils savaient plus sur les produits qu'ils avaient à main du fait d'être en astreinte et puis après ils avaient beaucoup plus de connaissances du code et du système, etc. Donc ça a été très très bénéfique. Donc lui il préconise que si on a un SaaS d'intégrer ça dès le début, de pas se dire que ça va être plus simple si on n'a rien et qu'on verra comment on fait. Donc, je vous laisse vraiment l'article pour voir plus en détail exactement tout ce qu'il dit. C'est en anglais aussi. Après, j'ai connu un outil qui s'appelle ChatGPT qui traduit ça assez facilement.
Je croyais que tu allais dire « lui, il pète d'astreinte, ChatGPT, 24/7 ».
C'est ça.
Ouais, blague à part, c'est pour traduire des morceaux d'articles, c'est pas mal. Quand on a des doutes sur
les résumés aussi.
Sur l'anglais, les résumés, ouais.
Résumés, très bien. Une partie des show notes sont faites avec ChatGPT. Non, en tout cas, oui, dans très très bon article. Et effectivement, voilà, ça revient vraiment à toute cette logique de comment est-ce qu'on gère les process en interne. Cette problématique, bien sûr, des astreintes, c'est la plus compliquée, on en a besoin à peu près dans toutes les boîtes qui effectivement vendent du SaaS, enfin vendent du soft qui a besoin d'un support dédié, etc. Et c'est vrai que ne pas, enfin cacher le problème n'est pas une solution. Il faut s'organiser. L'alerte fatigue, ce que tu mentionnais, hein, le fait que bah voilà, il faut nettoyer qu'est-ce qu'on accepte comme alerte, qu'elle soit toute utile, qu'elle soit documentée, qu'on ait des playbooks, etc. pour savoir. Bah, si ça pop, qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est super, super important pour rendre ça gérable et pour que derrière la qualité soit au rendez-vous. Donc, ouais, très très bon article. Donc voilà. Donc vous avez tout un tas de petits articles là-dessus pour améliorer vos pratiques en interne. Sécurité et privacy, parce que j'ai mis un peu les deux ensemble. Alors cet été, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des problèmes de sécurité sur les processeurs. C'est con. Là, c'est con, les processeurs, c'est quand même un peu le truc de base utilisé partout. Et donc, il y a eu une faille, il n'y a pas de jaloux. Il y en a une chez Intel et une chez AMD. Comme ça, j'en ai pas vu passer chez Apple. Mais donc, Downfall, une faille de sécurité chez Intel et AMD qui s'appelle Inception. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai essayé de comprendre, mais bon. Donc Downfall, c'est une fois de plus, c'est comme le comment c'était l'ancienne. C'est lié à tout ce qui est vraiment prédiction. Donc c'est l'optimisation de la mémoire sur les processeurs Intel, mais qui justement fait que les registres internes au logiciel peuvent des fois être mal utilisés. On peut reprendre les informations qui traînent dessus. Donc là-dessus, que dire? Donc de toute façon, les deux failles, elles ont des patchs aujourd'hui. Ça a été patché au niveau, alors soit des kernels, soit des OS, etc. Sur celle de Intel, ça concerne, que je vous dise pas de bêtises, c'est les Intel Core de 6e génération Skylake, donc jusqu'à Tiger Lake, donc jusqu'à la 11. Donc tout ce qui est 12 et supérieur, c'est OK. Donc, mais donc, si vous avez des CPU de 6 à 11, vous pouvez être impacté. Inception chez AMD, là par contre c'est tout le monde, c'est tous les processeurs depuis 2017 qui sont impactés, dont les modèles Zen 4, Epic et Ryzen pour ceux qui utilisent des AMD. La faille Inception est un peu moins grave, je l'ai moins bien compris, mais elle est moins grave, elle est plus difficilement exploitable en fait, donc c'est franchement plus compliqué. Par contre, dans les deux cas, ce qui est dans les articles mentionnés, et puis vous verrez d'autres liens, il y a quand même un impact important sur la performance, hein, puisque là, le fait d'avoir patché les CPU a dégradé quand même de manière un peu significative les performances des deux CPU. Voilà. Donc, une fois de plus, mettre à jour vos systèmes, ça reste critique. Là, c'est des trucs vraiment bas niveau qu'on peut rien
là, dire. Là, il faut changer la puce, il faut monter à Java 11, à Java 21, passer à GPT-4. Punaise, ça fait du taf.
Et j'avoue que là, moi, j'ai pas mal galéré cet été avec le hardware, puisque mon fils, le plus grand, qui rentre à la fac, tout ça, a voulu se construire un ordinateur de gamer. Et donc, il a fallu que je me remette dans, mais comment est-ce que, qu'est-ce qu'on met dans une machine en 2023, c'est quoi les cartes mères à prendre, les CPU, les
cartes graphiques.
C'est quoi un disque? Ah non, merde, il y a même plus de disque dur. Ah non, mais c'est quoi ce truc? C'est tout petit. Ah, mais c'est ça, un disque dur maintenant.
Ah, c'est 4 téra.
C'est tout petit, ça fait 4 téra. C'est génial. Mais comment tu gères la compatibilité entre la RAM et son casque et son machin? Oh là là. Bref. Donc, en tout cas, tout ça, ça reste
avec des vieux souvenirs,
ça. Une belle magie noire au final pour que ça fonctionne. Mais ça nous rappelle que voilà, le hardware, c'est quand même la base de tout, et quand il y a des bugs dedans, on est bien embêté. Donc voilà, donc pensez dans tous les cas à patcher et à mettre à jour vos OS pour être protégé contre ces vulnérabilités.
Et passer à Java 21.
côté privacy, Chrome, Guillaume n'est pas là, on va pouvoir dire du mal de Google. Chrome, pour partager un maximum le tracking de vos comportements sur le web, savoir un peu, tiens, Antonio, il est allé voir chez Amazon pour acheter des casseroles. Et puis, Katia...
L'Oréal, du shampoing.
Elle, c'était un marteau. Tout ça, il y a historiquement...
Moi, j'ai acheté des casseroles aussi. J'avais fait...
Oh, mais là, vous cassez mon truc, c'est pas possible. Tout ça, historiquement, ça utilisait énormément les cookies tiers. Et donc, c'était la capacité à mettre des cookies dans votre navigateur qui était lisible par un peu beaucoup trop de monde. Et c'est comme ça que vous vous retrouviez à aller voir quelque chose sur Amazon et que derrière, vous faisiez une recherche sur Google. Et puis, c'est bizarre, il me propose ce que j'ai fait, machin. Bon, Google a bien senti le vent venir. Tout le monde s'est dit non, ça suffit, les cookies tiers, il va falloir les loquer, etc. Donc bon, les browsers ont commencé à tout de suite, à se plier, notamment aux lois, aux régulations qui commencent à renforcer le tracking, etc. Mais donc ils se sont dit c'est quand même emmerdant, hein, pour tout l'aspect publicité, comment on va faire. Donc ils ont commencé à bosser sur des nouvelles API dans leur navigateur Chrome, les API qui s'appellent ça Topic. Pour justement permettre aux utilisateurs de remonter volontairement ou pas leur comportement et des statistiques de comportement sur leur utilisation d'Internet. Donc ça, ils l'ont déployé sur Chrome, la version, 115. C'est arrivé. Vous pouvez donc effectivement aller chercher dans vos paramètres Chrome, dans la partie privacy, etc. Vous verrez qu'il y a une nouvelle partie topic avec trois options. Je rentre pas dans les détails, c'est expliqué dans l'article. Je vous ai mis la version, je vous ai mis un article français. Les trois différentes catégories. En gros, le mieux, c'est vous allez dans Chrome, privacy, vous désactivez toutes ces bêtises-là et vous en sortirez bien. Donc une fois de plus, Chrome et Google essayent de trouver des solutions pour quand même essayer de comprendre et de traquer un petit peu vos usages, parce que c'est quand même ce qui fait vivre, hein, ce qui fait vivre la publicité. Après, il faut bien avouer, hein, que c'est pratique, hein, de pouvoir savoir ce que les gens font. Maintenant, une fois de plus, ça a été fait un petit peu silencieusement. Parlons-en ici, ça vous aidera à vous protéger. Loi, société et organisation. Alors là, une fois de plus, on va retrouver de l'IA, on va retrouver un petit peu aussi de privacy, etc., et de loi. On commence avec un peu d'IA. C'était un article que tu mentionnais tout au début, Antonio.
Lama.
Lama 2. Donc, la nouvelle définition d'open source pour Lama 2. Source.
Mais en fait, c'est rigolo parce que si vous regardez la genèse d'OpenIA, donc tout le monde parle d'OpenIA, Bah, Open, c'était vrai jusqu'à il y a quelques années.
C'est ça.
Puisque vous trouvez GPT-1 et GPT-2 en open source sur Hugging Face. Depuis GPT-3, 3, 5 et 4, tout ça c'est un peu close. On sait pas ce qu'il y a dedans, on sait pas comment c'est entraîné, etc., etc. Et en fait, vous avez deux sons de cloche. Un son de cloche qui dit mais c'est terrible, il faut tout savoir, il faut qu'on sache comment, quelles sont les données qui sont dedans, comment c'est entraîné. Donc il faut que ça soit open source. Et puis vous avez l'autre son de cloche qui est vraiment le, vous voyez, le modèle américain de on est gentil et comme c'est un outil hyper puissant, il faut qu'il soit géré par les gens gentils et pas par les gens méchants. Et on vous dit non, ce sont devenus des outils hyper puissants, GPT-4 ou Gemini, c'est des trucs hyper puissants. Donc il faut que ça soit utilisé par des gens gentils. Donc on ne peut pas mettre ça en open source parce que sinon n'importe qui pourrait prendre ça, entraîner les modèles si tout était open et entraîner pour le mal, et nous on les entraîne pour le bien. Voilà. Donc une fois que vous croyez à cette histoire, effectivement, même Llama qui est Meta durant un petit bout de temps disait regardez, Llama c'est le seul vrai modèle open source de cette taille-là, parce que une fois de plus, si vous allez sur Hugging Face, des modèles open source, vous en avez pléthore, mais de la taille de Llama, je suis pas sûr. Et donc Meta se disait regardez, nous on est super gentils, en plus on a Llama et on le donne en open source. Et en fait, ce blog-là vous dit Llama 2, oui c'est open source, mais jusqu'à ce point-là. Et donc on vous dit que déjà on sait pas comment il le build, on sait ce qu'il y a dedans mais on sait pas le builder. On peut l'utiliser mais à moins de 700 millions d'utilisateurs par mois, au-dessus vous avez plus le droit. Donc en fait, c'est vraiment, vous voyez, l'IA là, on est sur on en parlait encore avec Katia là et l'interview de Leslie, hein. C'est, on en est au tout début. Il y a énormément de choses qui se passent. Alors moi, le seul truc quand même dans toute cette vision un peu dystopique, je ne sais pas si dans l'histoire de la technologie on s'est autant questionné au début d'une technologie. C'est-à-dire que l'IA, bien sûr, l'IA a 30, 40 ans, mais l'IA qui sort maintenant va très, très vite. Et on a énormément de gens qui se posent des tas de questions, même OpenIA, même Microsoft, même Meta. Toutes ces boîtes-là se posent énormément de questions. C'est-à-dire que la technologie est pas encore sèche. On sait pas bien ce qu'on va en faire, on sait pas bien, voilà, on sait pas grand chose, mais il y a déjà des gens qui se posent des tas de questions. Mais voilà, sachez que l'article décrit très très bien. C'est pas parce qu'on sait ce qu'il y a dedans que c'est open source. Enfin, une licence open source, c'est pas Meta qui définit ce que c'est open source ou pas. C'est quand on applique une licence open source. C'est quelqu'un a défini cette licence et on applique les règles de cette licence, ce que ne fait pas Meta avec Llama 2. Voilà.
Et pour continuer sur ces problématiques de licence, oui, c'est compliqué, c'est open, c'est pas open, comment est-ce qu'on en vit, comment est-ce qu'on se protège, comment est-ce qu'on fait du business, pas de business. Ça, l'IA, bien sûr, c'est nouveau, donc il y a tout à construire et c'est compliqué de trouver le bon modèle. Mais ça touche aussi les anciens, HashiCorp, donc qui vient de passer, donc c'était au mois d'août, alors comme plein d'autres, hein, on a eu les mêmes stories côté Elastic, côté Mongo, Redis, enfin bref, il y en a plein. Ils viennent de passer leur partie core sur la licence BSL, donc en gros qui dit alors de manière relativement assez vague, que oui, bon, vous pouvez continuer toujours à utiliser, etc., à condition de pas faire du business et tout ça. En gros, c'est une fois de plus pour, en théorie, se protéger contre ceux qui essaieraient de vendre de la valeur ajoutée sans recontribuer directement au projet et en utilisant uniquement tous les efforts qui sont fournis par la communauté et par HashiCorp eux-mêmes. Bon, bien sûr, ça fait de grosses vagues puisque la communauté, une fois de plus, se retrouve au pied du mur, se trouve défaussée de trucs. C'était mon projet, c'est plus le mien, c'est plus vraiment le mien, voilà. Donc bien sûr, il y a des personnes qui comprennent, des personnes qui comprennent moins. Il y a jamais de bon ou de mauvais dedans, mais effectivement, c'est très mélangé. Donc ce qui devait se passer se passa comme d'habitude. Une partie de la communauté a dit non, OK, tu vis ta vie dans ton coin. Nous, on veut rester full open source. Et donc, tout comme Elastic avait eu son fork avec OpenSearch, je me rappelle plus les autres, il y a un fork qui vient d'être créé. Alors, ça va pas très vite, hein. Ils sont pas très, très rapides. Mais donc, ils viennent de créer un fork sur la dernière base de la licence open source de Terraform Core pour créer le projet OpenTF avec sa propre fondation qui va rejoindre qui va essayer normalement de rejoindre la fondation CNCF. Voilà. Donc un nouveau drama dans la tech qui effectivement s'explique surtout par le choc violent du changement de licence qui est imposé unilatéralement parce que une fois de plus c'est un produit open source mais qui est maintenu et poussé par une grosse et seule entreprise. C'est ce qui s'était passé pour d'autres et qui effectivement des fois font des choix qu'on comprend moins bien. C'est vrai que c'était sûr que sur les cas comme Elastic avec Amazon et tout ça qui vendaient du service, qui vendaient du cloud au-dessus, on le comprenait. Bon, la Terraform, pour l'instant, c'est vrai que beaucoup de gens ont du mal à comprendre c'est qui les vrais concurrents sur lesquels ils essayent de se protéger. Bon, voilà. Donc, ça, je pense qu'on en entendra à nouveau parler. Donc, et la question, est-ce que OpenTF aura vraiment un succès ou pas? L'avenir le dira. On en est là. Stack Overflow, on les connaît, hein. Qui n'utilise pas Stack Overflow pour faire du copy-call à droite, à gauche de code? Mais ils se sont dit, mais maintenant qu'il y a les IA, c'est ChatGPT qui fait le copy-call pour moi, donc c'est un peu con. Donc Stack Overflow annonce son IA aussi qui s'appelle Overflow AI.
AI. C'est vrai que parfois on est étonné. Ça va à une vitesse incroyable, mais c'est vrai que quand on a vu GitHub Copilot avec derrière ses Codex, le modèle, ses Codex, on se dit mais Stack Overflow, ils doivent avoir des centaines de milliards de questions-réponses avec du code. C'est eux qui devraient être numéro un en IA, en vous aidant à taper du code avec les recommandations. Enfin, c'est quand même. Donc ils s'y mettent enfin. Mais c'est vrai que lorsque j'ai vu arriver GitHub Copilot ou comme IntelliJ, IntelliJ qui viennent de sortir aussi leur IA, je me suis dit mais que fait Stack Overflow? Ça y est. Ils viennent de sortir leur Overflow AI qui va, vu qu'ils ont toutes ces données-là, ils ont entraîné un modèle. Je ne connais pas plus de... j'ai pas vu plus d'informations sur le modèle, s'il est open source ou pas, je pense pas, je pense que c'est leur truc à eux. Voilà, donc sachez qu'il y aura une IA spéciale Stack Overflow qui arrive.
Ok.
Parce que ce qu'ils disent dans l'article, c'est que le forum questions-réponses sont le cœur battant de Stack Overflow et que du coup, normalement, l'objectif de Overflow AI est d'améliorer la communauté d'une manière diverse plutôt que la remplacer complètement. Que le côté on verra. En effet, comment ça évolue.
Mais c'est un vrai problème puisqu'aujourd'hui, toutes les IA qu'on voit effectivement vont pomper les informations à droite à gauche. Mais si derrière les développeurs justement prennent plus le temps et ne voient plus l'intérêt d'aller contribuer, ça va s'assécher obligatoirement le puits d'informations. Si les développeurs ne vont plus sur Stack Overflow parce qu'ils utilisent ChatGPT ou autre pour faire leur copier-coller, mais donc ils répondront plus parce que c'était quand même souvent aussi l'opportunité de je vais répondre parce que ce que la réponse me plaît pas ou va pas, etc. Donc il y a quelque chose à trouver. Donc effectivement, je pense que
parce que ce qui est intéressant avec l'IA, c'est comme elle génère Vous allez voir rapidement, hein, ça commence dans d'autres domaines, mais chez nous, ça va tout de suite arriver, je pense. C'est que l'IA va générer du code. Donc, on va faire des copier-coller de code généré par une IA qu'on va mettre sur Stack Overflow ou autre. Et ces IA sont entraînées sur les données qui commencent partiellement à être générées par des IA. Donc, ça, c'est intéressant.
C'est ça.
C'est le P de PHP.
Ouais, c'est ça. Allez, on va terminer avec une petite loi, un projet de loi. Vous avez entendu parler de la loi SREN, S-R-E-N ? Non. Alors, c'est un projet de loi de notre cher gouvernement qui demande à ce que, puisqu'ils ont du mal à filtrer Internet, à passer par les DNS, parce que les gens y hackent, etc., etc., ils se sont dit, ah bah tiens, on a une meilleure idée. On va demander aux navigateurs de nous permettre à nous de filtrer ce que les utilisateurs ont le droit d'accéder ou pas. Et donc, voilà, donc c'est un projet de loi qui, Mozilla et d'autres, hein, bien sûr, s'offusquent qui sont contre ce genre d'approche un peu naïve et complètement contre-productive pour essayer de filtrer et de limiter tout ce qu'il y a sur Internet. Donc, il y a une pétition que vous pouvez signer, n'hésitez pas, pour essayer, bah voilà, de faire changer d'avis le gouvernement qui veut passer une fois de plus une loi dont je pense qu'ils comprennent encore mal les tenants et les aboutissants techniques de ce genre de choses, tout comme bah voilà les fameux filtrages sur les DNS et tout ça, que bah ouais, ça, une fois de plus, le grand public est puni, ceux qui savent faire bah sont pas punis, puis tout le monde met des VPN, etc., et là les browsers bah ça va être pareil, bah c'est voilà. Donc voilà, une nouvelle petite loi encore un peu toxique. On termine avec les conférences.
Oh punaise, 40 jusqu'à la fin de l'année. Donc merci Aurélie Vache qui maintient un agenda des conférences tech en France. Alors elle parle de la Belgique quand même. Là, je viens de voir qu'il y a des Vox Belgique. Ouais. Et il y a le Maroc aussi, pardon. Mais principalement en France. Et franchement, je suis bluffé. Alors le Jug Summer Camp, c'est aujourd'hui, c'est pour ça que Guillaume est pas là, c'est parce qu'il est à La Rochelle.
C'est ça.
Mais voilà, enfin, je vais même pas vous toutes les dire parce qu'il y en a 40, mais sachez qu'il y en a à Toulouse, à Montpellier, à Nantes, à Gilles-en-Seine, à Paris, au mois de septembre. Tout ça, c'est au mois de septembre. Il y a Big Data aussi. Ah tiens, ça s'appelle Big Data et AI. À Paris, tiens, ça s'appelle Big Data.
Ils ont renommé
Big Data et AI.
Ils l'ont fait, ah là, c'est bon, c'est maintenant c'est ça, c'est le rebranding.
C'est le rebranding.
Et du coup, les DevOps Day, ça va s'appeler
DevOps and AI. Ah oui.
Platform AI Days, Platform Days.
Il y aura DevOps Belgique le 2-6 octobre. Katia, Arnaud, vous y allez, vous ?
Moi,
je n'y vais pas.
Moi, j'y serai. Je parlerai d'intelligence artificielle. Vous n'allez pas le croire, mais
ben voilà.
Il y aura du sémantique kernel à DevOps Belgique. Il y a DevOps Maroc en octobre. Il y a Volcamp à Clermont-Ferrand qui revient. Il y a DevFest Nantes, bien sûr. Codeur en scène aussi à Rouen fin octobre. Scala IO à Paris. Agile Tour Bordeaux, comme son nom l'indique, c'est à Bordeaux. Suivi du Bordeaux IO, du BDX IO en novembre. Ouais. DevFest Strasbourg, DevFest Toulouse. Punaise, Agile Grenoble. Open Source Experience à Paris. Ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, ils sont tous bien. DevFest Dijon en décembre à Dijon, Flowcon, après je suis en 2024.
J'arrête. Ça y est, tu passes en 2024 là.
Punaise. Voilà, donc il y a énormément de conférences. Et là, pour le coup, merci Aurélie parce que...
Oui, parce qu'Aurélie s'est contente pas que de mettre la data des conférences, mais aussi les CFP. Parce qu'il y a bien un badge pour indiquer quels sont les CFP qui sont toujours ouverts et quels sont les CFP qui ont déjà fermé parce qu'ils sont en rouge.
Ouais.
Mais du coup, il y a énormément de CFP, bah, pas pour les conférences qui arrivent à la fin de l'année, mais pour les années, bah, pour tout ce qui va être plutôt en 2024. Donc, il y a beaucoup de CFP encore ouverts. Donc, voilà, allez-y, c'est l'occasion rêvée de parler en conférence 2024 parce que c'est vraiment la folie. Et puis du coup, moi j'avais une question en parlant de Vox France. Est-ce qu'on sait quand est-ce que le CFP va ouvrir? C'est pour une copine.
Bon, écoutez, il est 14h04, il faut que je vous quitte.
Ah voilà, il faut que je m'en aille, désolé Cathy.
Oh, mais c'est quoi cette bombe de fumée?
Allez, a priori, ça sera comme chaque année, ça sera fin novembre qu'on va ouvrir le CFP. Voilà.
Mais ne répétez pas trop. Déjà ça dans votre petite
tête. Non, répétez pas trop, ça va nous mettre de la pression, sachant qu'en plus, il y a plein de nouveautés, notamment sur le CFP. Donc, pas trop de pression, s'il vous plaît. Oh là 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 là, oh là là. Et il y a beaucoup de nouveautés aussi sur Devox France lui-même, avec un nouvel étage en plus. Bref, allez. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci Katia, bienvenue encore.
Merci.
Big love. Big love tout le monde.
Passez une bonne journée, à très bientôt.
Au revoir tout le monde.
Au revoir. Bah, bienvenue. Attends, ça
du coup. Alors on coupe pas.
C'est même pas ce que je dis.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.